quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
C'est peut-être votre pire ennemi, mais vous n'êtes pas seul. Votre mère et votre relation avec elle est sans issue. Cela méritait bien que l'on y consacre alors toute une émission en quête de sens. Alors voilà, on se calme un peu ce soir, avant les fêtes de Noël et leur repas endiablé de petites remarques qui approchent, et puis ces ruissellements de cadeaux. Comment faire de sa belle-mère une alliée ? Eh bien, c'est la question du jour qui fait déjà sourire l'une de nos invitées autour de cette table. Et j'ai la grande joie de recevoir Aliette de Panafieux. Bonjour Aliette.
Oui, c'est moi qui ris.
Ça vous fait sourire. Ça, vous voyez déjà vos belles-filles au repas de Noël, c'est ça, dans votre esprit?
Oui.
Ça
mais,
d'accord.
Oui.
Tout va bien se passer.
Et mes gendres
ah,
aussi.
On les a oubliés aujourd'hui.
Oui.
Peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Alors vous qui êtes formatrice psychothérapeute depuis des années, maman de 5 enfants, grand-mère de 6 enfants, vous animez toujours des ateliers de parents et de groupes depuis une trentaine d'années. Vous animez également des conférences. On peut mentionner votre association L'Affaire d'une Vie, en deux mots, L'Affaire d'une Vie.
Qui nous aide à rester dans le mouvement de la vie et à progresser.
D'accord.
À progresser et voilà. À nourrir de la sève dans l'arbre.
Que l'on soit seul,
oui,
à deux.
Tout.
Voilà. Eh bien, merci d'être là, Aliette de Panafieux. Stéphanie Combe, merci Stéphanie d'être venue jusqu'ici. On est ravis de vous recevoir. Ça fait plaisir de vous retrouver, vous qui êtes maman de 3 enfants, journaliste à la vie, au service, famille, société, éducation, qui avait publié de nombreux ouvrages. Et on mentionne celui consacré à notre sujet du jour, à savoir belle-mère, belle-fille chez Casar, n'est-ce pas, de A à Z, belle-mère, belle-fille, tout ce qu'il faut savoir en gros sur justement les liens. À adopter, enfin en tout cas ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe bien, pour faire de sa belle-fille et de sa belle-mère une alliée, n'est-ce pas Stéphanie? Si vous avez écrit un livre, c'est qu'il y a un sujet, on est d'accord.
Il y a un énorme sujet qui délie les langues.
Qui délie les langues, on est bien d'accord. Alors, histoire de ne pas le faire le jour de Noël ou le soir de Noël ou le lendemain, le 25, au repas familial, on va essayer de désamorcer un peu toutes les bombes ici, dans cette émission en quête de sens, si vous le permettez. Et nous sommes enfin en ligne avec Sophie Andriansen. Bonjour Sophie.
Bonjour Marianne.
Ravie de vous entendre, vous qui êtes l'auteur de plus de 80 ouvrages, et on mentionne le petit dernier qui nous a inspiré d'ailleurs également cette émission, Figurante, journal d'une belle-mère qui ne voulait pas d'un second rôle chez Robert Laffont. Vous avez tout dit Sophie, c'est ça, dans ce dernier livre?
J'ai dit en tout cas ce que d'autres n'osent pas dire.
Ouais.
Je pense qu'on va en parler parce qu'effectivement il y a beaucoup à dire et on n'est pas toujours prêt à l'entendre.
Alors d'abord, Aliette, vous qui êtes notre psy du jour, si je puis dire, est-ce que c'est normal, ces rapports entre belle-mère et belle-fille, ça a toujours été compliqué, j'ai l'impression, depuis la nuit des temps. C'est vrai ou pas, ça?
Oui, c'est vrai.
Et pourquoi?
Eh bien, parce que la première question, c'est tout ce que ce n'est pas une belle-mère. Ce n'est pas une amie, ce n'est pas la mère, elle n'est pas toujours belle, ce n'est pas une confidente, ce n'est pas ma sœur. Ouais. Ça commence déjà par ça.
D'accord.
Et donc, quand j'aurai fait le deuil de tous ces fantasmes qui vont un peu du côté de la symbiose, comme si ça s'approchait de... Surtout, ce n'est pas ma mère. Voilà, c'est pas ma mère. Et donc, une fois qu'on a fait un peu le ménage, on peut petit à petit s'approcher de qui est-elle, qui peut m'aider sans me sauver, à qui je vais parler avec beaucoup de prudence. De toute façon, si j'avais un mot commun dénominateur, prudence, silence, distance, enfin quelque chose qui a à voir avec beaucoup d'intelligence de la situation, et tout en apportant de la confiance. Et surtout, pour moi, c'est est-ce qu'elle est... Dans les conflits, notamment quand le ciel est bleu, on ne l'améliore pas. Dans les conflits, est-ce que c'est la mère de mon mari? Est-ce que c'est la femme de mon beau-père? Est-ce que c'est la grand-mère de mes enfants? Et chaque fois, ça fait une constellation différente. Et que si je n'avais qu'une seule chose à dire, c'est vraiment un cadeau de mariage que je fais à tous les jeunes couples, c'est la recommandation, mais fervente, de ne jamais, jamais, jamais dire quoi que ce soit de négatif à son mari, ou à son conjoint, parce que ça peut être dans l'autre sens aussi, sur la belle-famille. Jamais.
Oh,
Jamais.
Ah bah dites-moi. C'est impossible. Et ah non. Stéphanie,
pour moi,
Sophie,
c'est une discipline héroïque. Ouais. Mais pour moi, ce que je vois quand je reçois des couples, des familles, c'est que immédiatement, ça crée une faille dans l'alliance du couple.
C'est-à-dire de critiquer sa belle-famille
jamais.
Avec son mari, c'est ça, ou avec sa femme.
Ou devant lui.
Devant lui, carrément,
jamais.
Juste devant lui, on peut pas.
J'ai mes D'accord. copines, ma sœur, etc., pour décharger ce que j'ai pu sentir, mais jamais dire quoi que ce soit de disqualifiant, de dévalorisant.
Parce que ça fait quoi ? Ça fait quoi ?
Parce qu'à ce moment-là, je suis supposée m'adresser à cet homme costaud, intelligent, etc., mais quand je dis ça, je m'adresse à un petit garçon qui a encore 5 ans et dont j'attaque la maman chérie. Et donc, on va faire l'hypothèse que nous avons tous des difficultés à nous séparer de nos parents, peut-être un peu plus notre conjoint. Et donc, à ce moment-là, je dois considérer que derrière cet homme héros que j'ai épousé, que j'ai choisi entre mille, il y a un petit garçon encore en culotte courte et qui n'est pas tous vraiment sûr de pouvoir supporter quelque chose de négatif sur sa mère. Mais ça, c'est, pour moi, c'est impératif.
Ah ouais. Bon, alors Stéphanie Combe, j'ose même pas vous regarder dans les yeux.
Je crois en effet que derrière cette difficulté relationnelle, ouais. il y a la question de la maternité. Le lien entre la mère et ses enfants est viscéral, mais plus encore, je pense, avec le petit garçon, puisque c'est un lien, contrairement à celui qui unit la mère et la fille, qui est exemple de rivalité. Et donc, en effet, je crois que la mère voit toujours dans son fils ce petit garçon qu'il a été, qu'elle a comblé, dont elle a comblé tous les désirs. Et quand la belle-fille arrive, eh bien, elle arrive en rupture. Désormais, le rôle de la mère sera de s'effacer. Et ce n'est pas toujours facile pour différents profils. La maman poule, typiquement, qui s'inquiète de ce que va devenir son enfant. Son bébé, qui va présenter à sa compagne ses failles, sa vulnérabilité, donc potentiellement être en danger. C'est aussi difficile pour les profils de mères qui mènent tout à la baguette, assez castratrices, on va dire, hein, qui ont eu l'habitude de tout régenter, parce que la belle-fille aussi va agir désormais comme un contre-pouvoir. Ne parlons pas des mères toxiques. Mais en tout cas, je crois qu'il y a un enjeu pour ouais. toutes les mères, c'est vraiment de passer à une relation d'adulte à adulte, d'accepter de voir son enfant voler de ses propres ailes, de poser ses choix en tant qu'adulte.
Ouais. Qu'est-ce que ça résonne ? Ça résonne comment aux oreilles de Sophie Adriaensen au fond ?
Bah, c'est-à-dire que chez nous, on est dans le regard de la belle-mère qui a des difficultés avec sa belle-fille qui est la fille de l'homme qu'elle aime.
Ouais.
Mais d'ailleurs, notre livre commence par « T'es pas ma mère ». Donc, ça rejoint ce qui a été dit.
Ouais.
Et effectivement, on part du principe, dans ce cas, que c'est l'adulte qui est responsable de la mise en place de la relation et de sa qualité, finalement. Et donc, ça fait une charge mentale et puis organisationnelle supplémentaire pour la belle-mère, parce que, elle doit... gérer cet enfant qui n'est pas le sien, qui fait partie du package avec l'homme avec qui elle a choisi de vivre, au détriment bien souvent d'elle-même en fait. On est habitué à ce qu'il y ait une forme de dépossession de soi dans la maternité, mais dans la beauparentalité en fait c'est encore plus attendu et ça peut être très difficile à vivre.
Ouais, et puis, ouais, allez-y, Aliette.
Moi, je dirais que c'est le conflit que je sens, c'est un désir de quelque chose, d'une proximité et un besoin de distance. Et que ça, c'est tout le temps à négocier. Parce que cette distance, elle va dans le sens de ce que je crois, c'est que tout amoureux dans la vie de quelqu'un a comme fonction de permettre à la personne de séparer. Pas de rompre, etc., de se séparer. Et donc, si je considère mes belles-filles comme des filles, c'est le contraire. C'est que je ne suis pas en train d'inviter mes enfants à créer un autre lieu, un autre territoire surtout, parce que le commun dénominateur pour moi c'est territoire, qu'il soit symbolique, matériel, géographique, quand on est dans la même maison, la cuisine, la salle de bain. Et donc ce territoire il est aussi symbolique et que ça m'importe de bien signifier à ma belle-fille que ce n'est pas ma fille, même si effectivement je peux avoir beaucoup de mouvements vers elle et d'empathie et d'amour aussi pour elle, mais ce n'est pas ma fille.
Ouais.
Et pour méchante, c'est pour ça que c'est important aussi méchante, parce que c'est encore différent. Mais pour moi, c'est le moment où j'ai trouvé que c'était le plus complexe, notamment par rapport aux codes et aux traditions de nos mères, grand-mères, etc., c'est l'appellation dont il a été question dans les livres-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, compte tenu des nouvelles... Moi, j'ai connu plein de copains, copines, quelquefois amoureux de mes enfants. Puis un jour, copain, c'est-à-dire qu'il m'appelle par mon prénom, toujours avec un vouvoiement. Mais quand il convole en juste noce, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas rétro-pédaler en leur demandant de m'appeler. Donc, je suis toujours embarrassée par ça, parce que, effectivement, le vouvoiement est obligatoire, mais quand il m'appelle Alia, je ne suis pas confortable. Ouais. Et je regrette de ne pas avoir anticipé ça. Parce que je me trouve dans
vous gêne, enfin, cette proximité.
Parce que, effectivement, idéalement, ils n'ont pas à m'appeler Aliette, comme les copains de mes enfants. Voilà. Et ça, un lieu de réflexion et de regret aussi.
Il ne faut pas chercher à être copine avec sa belle-mère, Stéphanie, et puis ensuite.
Je ne crois pas, en effet. Oh. Je crois que la jeune fille qui arrive, la jeune femme, objectivement, a un rôle de perturbateur. Parce qu'une famille, c'est une entité avec son histoire, avec ses valeurs, ses rituels, ses convictions. Et quelqu'un de l'extérieur qui arrive avec son propre bagage va nécessairement remettre en cause ce qui existe, et notamment tous les non-dits, tous les implicites, tous les rôles de chacun, tous les qui fait le propre d'une famille. Alors, c'est très sain. À condition que ce soit fait avec délicatesse. Et je crois que c'est toute la difficulté de vouloir être trop proche, par exemple. En fait, il y a une nécessité d'une certaine distance de ce regard extérieur pour parfois remettre des choses, re-questionner des pratiques. Pourquoi pas modifier un peu les rapports, les liens. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour le jeune couple, et grâce à la belle-fille, de parvenir à ça.
Ouais, Sophie, est-ce qu'il faut chercher, effectivement, vous êtes d'accord, vous répondriez à la même chose, faut-il chercher ou pas à en faire une copine en soi, c'est pas une bonne idée, ou c'est carrément inatteignable, ou c'est pas très sain, Sophie Adrien-Sel.
Je pense que c'est effectivement pas une bonne idée, mais pour le personnage, en fait, la fille a 2 ans au moment de la rencontre, donc un enfant de 2 ans prend sa belle-mère comme une personne adulte supplémentaire qui lui accorde de l'attention et qui l'aime, même si c'est une semaine sur deux. Et puis les relations évoluent et se tendent à l'adolescence. Néanmoins, quand la puberté arrive et qu'il se passe, en l'occurrence, les premières règles de la belle-fille, c'est une semaine où elle est avec sa belle-mère. Et là, c'est une affaire de femme qui se déroule. Et il se passe quelque chose entre les deux femmes, dont est un peu exclu le père de Myrtille, parce qu'on n'est pas dans de la relation de copine, mais il y a quand même des choses qu'on peut partager et qu'on partagerait peut-être pas exactement de la même façon avec sa maman, dans un sens comme dans l'autre. Ça peut aussi être pour de bonnes raisons.
Ouais, alors ça, c'est les beaux-parents liés aux familles recomposées qui sont de plus en plus nombreuses. Et c'est heureux que nous vous ayons en ligne, Sophie Andriensa. Nous serons également en ligne tout à l'heure avec Sarah Chauperlet pour évoquer également ce sujet. Mais de toute façon, ça revient toujours au même. C'est toujours une personne étrangère, comme l'évoquait Stéphanie, qui rentre dans le territoire. Quoi,
et qui apporte du bazar.
Et qui apporte du bazar.
Bienvenue.
Merci Sophie, parce que vous me faites penser, il peut y avoir aussi une grande complicité quand même entre les belles-mères
bien
et
sûr,
les belles-filles.
Mais complice, c'est pas la même chose que copine, parce que complice, je peux l'être avec d'accord. des personnes de générations différentes. Mais là, le mot copine, ça voudrait dire une disparition des
de hiérarchies,
de la hiérarchie.
Ouais, c'est ça, dans la
et que je peux avoir des moments de confidence. Je pense avec ma belle-fille, on prend du temps aussi à propos quand on commence à travailler ensemble, faire de la cuisine, de la couture, on parle. Mais ça ne sera jamais ma copine.
Ouais.
Mais elle est dans mon cœur, évidemment. Mmh. Mais je tiens beaucoup à cette organisation du clan familial. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler sur les familles. Parce que c'est important, on le voit dans tous les dérapages aussi, que souvent c'est parce qu'on n'a pas respecté un étage par génération. Mais aussi, ce que je vois dans le quotidien, ça c'est le niveau symbolique, dans le quotidien, ce que je dis souvent, c'est quand il y a gardé les enfants, c'est 2 générations et pas 3. C'est comme ça que ça se passe bien.
C'est-à-dire de garder
quand je garde mes enfants, mes petits-enfants, c'est sans leurs parents.
D'accord. Et pour moi, pourquoi c'est... Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est vrai que souvent, c'est très compliqué.
Mais ça évite tous les jeux, ça évite les manipulations, les jeux, etc. C'est vraiment parfait. C'est fluide quand je les ai seuls. Mais dès que les parents reviennent,
Ça, c'est un bon sujet en quête de sens, ça.
Pour moi, ça part d'une expérience.
Parce que c'est vrai que c'est souvent le bazar. Je pense à ça parce que je reconnais que c'est le bazar.
C'est la condition que je mets maintenant. Ouais. C'est, oui, vos enfants vraiment que je chéris et avec lesquels j'aime être, mais sans vous, allez-vous balader. Et c'est bien comme ça.
Eh bien, écoutez, je pense que c'est l'heure de se séparer une première fois, si vous le permettez, mesdames, et on se retrouve juste après.
En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande, ce jour que j'appréhende, où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra où triste et solitaire, soutenant ta mère et entraînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert. Je rentrerai chez nous où tu ne seras pas. Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise. Dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge, où l'on force les cages, ayant trouvé sa voie. Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri, et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir des années, lui qui viendra voler ce dont j'ai le plus peur, notre part de passé, notre part de bonheur. Cet étranger sans nom, sans visage, ô combien je le hais. Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse, je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse. Mais je lui offrirai mon cœur avec ta main. Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes, simplement car je t'aime le jour.
À ma fille Charles Aznavour sur Radio Notre-Dame et RCF. Et oui, comment faire de sa belle-mère une alliée? Effectivement, on va un petit peu faire la comparaison, ça tombe bien, avec pourquoi est-ce que c'est différent de gérer, si je puis dire, son gendre et sa belle-fille, c'est pas la même chose. Stéphanie Combe est avec nous, ainsi que Sophie Adriansen qui est en ligne avec nous et alliée de Panafieux. Stéphanie, vous avez une théorie là-dessus?
Mais oui, alors on le sait, on vit dans une société patriarcale, mais ce qu'on sait moins, c'est que des sociologues ont récemment montré l'orientation matrilatérale des relations de parenté. C'est-à-dire, ce penchant des couples à favoriser la parenté de la femme par rapport à celle de l'homme. dans plusieurs dimensions, que ce soit la proximité géographique, on peut s'interroger, hein, est-ce qu'on vit plus près de ses beaux-parents ou de ses parents, par rapport à celle de l'homme, l'affection, le soutien domestique. Et par exemple, c'est une enquête de l'INSEE qui a évalué que près de 60% des hommes en couple voient plus souvent leur belle-mère que leur mère.
Oui, m'étonne pas.
Voilà, alors concrètement, ça veut dire que...
Sans parler des vacances.
Je vous spoil. C'est le privilège de la mère de la mariée, c'est elle qui aura la primeur des informations, c'est à la naissance du premier bébé, c'est à elle qu'on fera appel, c'est elle qui aura davantage les enfants qui lui seront confiés pendant les vacances scolaires, etc. Donc, de facto, le lien avec la belle-mère est plus ténu. Et ce biais matrilatéral fait que l'homme est plus éloigné du soutien de sa propre parenté en général. Et donc, ça le contraint à adopter un comportement plus suiveur, disent les sociologues. Et donc, en gros, il fait profil bas et lui va être amené à trouver des terrains d'entente avec son beau-père, des passions communes, des sujets sans enjeu pour assurer l'entente générale.
Ouais, c'est très intéressant, ça, Aliette. Vous êtes d'accord?
J'aime beaucoup cette analyse. Alors, c'est vrai que ça dit là, des comparaisons entre les deux. Et pour répondre, pour réagir à votre question, Marie-Ange, sur la rivalité, eh bien, ça, pour moi, je prends un autre biais, c'est celui d'avoir la discipline, effectivement, d'identifier cette tentation de rivalité, de comparaison, et de faire le choix d'être dans une alliance, d'être dans du partenariat, d'être dans... C'est encore une fois cette prudence d'interaction, mais qui peut dire la gratitude pour qui est cette personne, la reconnaissance pour ce qu'elle fait, et être dans cette bienveillance, a priori, pour la mère de mon mari et la grand-mère de mes enfants.
Ouais.
Et d'évacuer autant que toutes les comparaisons. Elle va, finalement, ma belle-mère va me faire quelques remarques et je peux tout à fait, à ce moment-là, moi, rester dans la fluidité de la relation sans me laisser accrocher. C'est moi qui vais décider d'être accrochée ou pas par ces observations, ces comparaisons.
C'est pas très agréable, quand même.
Non, mais... je suis adulte et je peux tout à fait voir que ça fait partie de la règle du jeu et que c'est à moi de rester dans la délicatesse, finalement.
Mais si elle dépasse les bornes, ma belle-mère, on fait comment?
Ah, mais je ne vais pas la laisser faire, dépasser les bornes, non.
On fait comment pour pas, du coup?
Très vite, signifier une histoire de territoire. Voilà.
On fait comment? On lui dit quoi?
Par exemple, que c'est avec mon mari que j'ai la responsabilité de l'éducation des enfants.
Voilà, mon sujet. Voilà.
Merci beaucoup pour vos conseils. Mais pour ce qui concerne ces questions, c'est avec Laurent que nous avons fait ses choix, pris ses décisions de l'inscription telle part. Voilà. C'est juste protéger mon territoire. Mon salut ne passe pas par la destruction du territoire de l'autre, mais par la protection de mon propre territoire. C'est à moi de prendre cette responsabilité. Avec délicatesse, comme vous le disiez tout à l'heure, Stéphanie, mais aussi avec rigueur.
C'est vrai qu'il y a pas mal de belles-mères, Sophie Adriaensen, qui mordent un peu. Hein. C'est vrai qu'on ne sait pas trop jusqu'où il faut aller ou pas aller. C'est vrai qu'il n'y a pas de code de la belle-mère, de code idéal, ni de la belle-fille, ni de la belle-mère. Ça s'invente tous les jours. J'imagine que ce n'est pas simple, effectivement.
Oui, mais alors, du coup, pour rebondir, pourquoi est-ce que cette émission, finalement, elle est sur la belle-mère et pas sur le beau-père? C'est effectivement une conséquence directe du patriarcat. On le sait, on n'élève pas les petites filles et les petits garçons de la même manière. Donc, là où les filles vont être davantage autorisées à exprimer leurs émotions et aussi à parler d'elles et de ce qui va bien ou de ce qui va pas bien, eh bien, ça va créer une proximité dans l'enfance qui va continuer et qui peut se traduire par « Ah ben oui, mais moi, je veux pas m'installer trop loin de ma mère, parce qu'en fait, j'ai construit ma vie en lui parlant tous les jours ou toutes les heures ou toutes les semaines. Mais effectivement, ça vient de l'éducation, et la sociologie nous dit qu'elle n'est pas la même, finalement, dans notre société patriarcale, selon qu'on est petite fille ou petit garçon.
Oui, alors ça, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure un tout petit peu, Stéphanie. Aliette,
dire que aussi, dans ce rôle, c'est important que je sache aussi faire confiance à ma belle-mère, qui est grand-mère, pour être dans ce passage-là. Vraiment,
même si elle permet des choses qu'on ne permet pas.
Ah oui, là aussi, je vais recadrer.
C'est les règles de la grand-mère. Ah oui, c'est pour cadrer ensemble. Hein.
Mais je sens aussi combien c'est important, quelle que soit ma relation avec ma belle-mère, de savoir aussi faire confiance à mes enfants et à ma belle-mère pour créer un lien dans lequel je ne sois pas partie prenante. Ça peut être, et nous avons tous fait ce constat, de découvrir que, par exemple, une grand-mère a une session de rattrapage, elle va avoir vraiment une bienveillance qu'elle n'a pas eue avec ses enfants.
C'est très, très, très fréquent. important, ça.
Et voilà, et bien c'est, ça, c'est, ça va dépendre de moi, de ma capacité aussi à ouvrir, à permettre, à donner des recommandations à mes enfants et à poser aussi des choses qui me semblent importantes
et prioritaires. Et ne pas en vouloir à sa propre mère parce qu'elle est plus gentille avec mes enfants qu'avec moi, par exemple. Ça, c'est, ça peut détruire...
Pas de comparaison, et en effet, je voudrais ajouter une dimension qu'on évacue souvent, qui, à mon sens, est quand même importante, c'est que une mère dont le fils se marie arrive généralement entre les 40e rugissant et les 50e hurlant, autrement dit, au mi-temps de sa vie, et avec un âge où elle peut cumuler pas mal de choses, donc le syndrome du nid vide, le deuil de sa propre fécondité et les désagréments physiques qui lui sont liés. Et puis si c'est le premier enfant, la perspective de devenir grand-mère, quand on a 50 ans, c'est pas si simple en fait de se projeter, d'être projeté comme ça dans une génération, à la deuxième génération de l'arbre généalogique. Donc la belle-mère, en plus des peurs parfois légitimes qu'elle peut avoir pour son fils, elle a aussi tout ça à gérer, et je crois qu'il faut pas l'oublier. Ouais, à l'heure des charges.
Alors, très sociologique notre Stéphanie Combe ce matin. Effectivement, il faut prendre en compte tout ça, en considération. Je crois que nous sommes également en ligne avec Sarah Chauperlé. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors bienvenue, vous êtes éducatrice spécialisée. Merci. Vous avez publié de votre côté « Moi, belle-mère ordinaire », paru aux éditions du Cerf, sachant que vous êtes mariée vous-même, mère de 4 enfants qui sont encore petits. Alors vous avez, voilà, donc c'est la belle-mère évoquée tout à l'heure également par Sophie Adriensen. Je ne sais pas si vous avez écouté le début de l'émission, depuis son début, mais de toute façon, c'est vrai que le lien avec sa belle-mère, même dans les deux traductions, si je puis dire, dans les deux sens qu'on lui donne en français, parce que la belle-mère ne porte pas, les deux belles-mères en français sont différenciées dans d'autres langues. Chez nous, c'est le même mot et c'est la même apparition, c'est la même intrusion quand même. Hein, c'est l'étrangère qui apparaît quand même dans le cercle matriciel, familial, je sais pas, en tout cas dans la famille nucléaire, comme on dit. Et ça, c'est pas simple, de toute façon, comme vous le constatez vous aussi dans votre livre, Sarah Chauperlé.
Non, je pense aussi que c'est quelque chose de très difficile, et je pense que le plus important, c'est d'arriver en fait tout simplement à aimer l'autre dans sa différence. Finalement, comme on en parlait aussi tout de suite, on parle beaucoup de rivalité, et en fait je pense que si on arrive à sortir de cette rivalité là et à être juste dans l'amour et on accueille l'autre, ben, je pense que ça se passe beaucoup mieux.
Même si on peut pas la supporter.
Même si on ne peut pas la supporter, ouais.
Aïe, 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 c'est dur la vie.
On peut toujours arriver, je pense, à trouver justement un terrain d'entente.
Alors, on n'a pas encore parlé des belles-mères toxiques, parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui ont dit « Ah oui, bah, moi, ma belle-mère, elle est toxique, vous n'avez pas répondu à la question. qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est de la duperie en quête de sens, Aliette? On fait comment ?»
Non, mais pour moi, il n'est pas question que je m'oblige à aimer quelqu'un que je n'aime pas.
Surtout si elle est toxique, en plus.
Mais oui, j'ai à la respecter. Elle.
D'accord.
Mais complètement.
Mais ça veut dire que...
Le contraire de la rivalité, c'est pas l'amour, c'est vraiment le respect.
D'accord. Ah. Ouais. C'est du travail, mais on peut y arriver.
Oui,
hein,
mais il n'est pas question que je fasse semblant, en plus, non.
Ouais. Qu'est-ce que vous diriez, Stéphanie, très honnêtement?
C'est sûr que la mère toxique, et elle existe, il y a beaucoup d'histoires autour d'elle.
Mais oui.
Dans les commandements, quand on dit tu honoreras ton père et ta mère, si tu lui rendras ce qui lui est dû. Mais ce n'est pas de l'aimer, c'est pas souffrir en permanence. Donc, en effet, dans certains cas, mieux vaut prendre ses distances, et je pense que c'est un devoir pour le jeune couple qui se construit, de prendre ses distances, de, comme vous le disiez, Aliette de Panafieux, d'affirmer son territoire, de construire du nouveau ensemble. Et du côté de la belle-mère, mais ça, est-ce qu'elle pourra l'entendre? Je ne pense pas. Vous connaissez les qualités de la belle-mère. Il faut qu'elle soit sourde, muette et aveugle.
Je me souviens maintenant.
Mais dans le cas contraire, forcément, ça va rejaillir sur le couple, et notamment le garçon qui va se retrouver, qu'il le veuille ou non, dans un conflit de loyauté. Donc parfois, l'éloignement vaut mieux qu'un Noël, puisqu'on approche
absolument.
À passer la rate au courbouillon avec les comparaisons.
Alors vous savez, mesdames, qu'il y a une nouvelle tendance à propos de Noël. On va bientôt consacrer une émission, d'ailleurs, faut-il passer Noël en famille, puisque c'est un vrai sujet. Je me demande si c'est justement pas de cause à effet que ça se joue, cette histoire, puisque de plus en plus, maintenant, de familles passent Noël en famille pure, nucléaire, c'est-à-dire sans les grands-parents. Donc, ça veut dire sans aussi les beaux-parents. est-ce que ça vous étonne ou pas qu'ils s'exprimaient là-dessus ? Est-ce que ça étonne Sophie et Sarah au bout du fil ? Sophie, ça vous étonne ou pas, ça ?
Ce que je me dis, c'est que ça traduit une belle clairvoyance sur ses limites et sur ce dont on a besoin pour passer un bon moment. Ouais. Ça veut peut-être dire qu'on sait que la réunion de famille au sens large risque d'être surtout source de tension, que ce soit sur le menu, sur les cadeaux, tout ça, et qu'on veut s'en préserver.
Ouais. Mais oui, écoutez, exactement. Sarah, est-ce qu'elle est de Sarah, d'accord ? Même interprétation ?
Non, moi je suis assez d'accord. Je pense que souvent le problème, ce qui se passe, c'est que du coup, pour satisfaire tout le monde, on passe plusieurs Noëls. Noël avec la famille du côté de la fille, du côté du mari, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très lourd. Et on voit bien la difficulté, quelque part, de rassembler tout le monde. Donc, je comprends qu'à un moment donné, finalement, c'est lassant et on a envie plutôt de se retrouver en famille et finalement de sortir des pressions.
Mais c'est ce que vous faites, vous, ou pas, par exemple, Sarah ?
Moi, j'ai une soirée juste en famille nucléaire, c'est clair.
Ah bah tiens, vous voyez, vous êtes dans la tendance, donc, Ali.
Voilà, ouais, vous connaissez bien ça.
Merci.
Par contre, après, je vais quand même avec ma belle-famille et je passe aussi un bon moment.
D'accord.
Même si c'est différent forcément de ce que moi je fais.
Ouais.
Mais oui, moi je comprends qu'on a envie de sortir de tout ça.
Aliette, c'est intéressant ça.
Non, alors pour moi
d'accord.
C'est non.
D'accord.
Parce
pourquoi
que,
donc
je m'appuierai à ce moment-là sur les propos de Robert Neuberger qui distingue bien les liens que nous avons et l'appartenance. Or, les enfants pour moi souffrent en ce moment, je suis d'accord avec lui, d'un défaut d'appartenance. L'appartenance, c'est pas ce qu'on rêve de faire, c'est une obligation d'introduire les enfants dans un arbre, dans quelque chose qui va circuler, c'est de les faire exister dans quelque chose qui n'est pas que la famille nucléaire.
D'accord.
Je tiens beaucoup à ça. Ça veut dire que nous avons le désir de ronronner, mais nous avons le besoin, en tant que parents, d'être du côté de l'appartenance. Quelque chose qui dit avec des rites, des rituels...
Même si c'est des tensions, mais c'est pas grave.
C'est inévitable, ça existe depuis toujours.
D'accord.
Voilà. Mais c'est voir comment je peux, en aménageant quelque chose et en composant avec les tensions inévitables, comment je vais pouvoir aussi rendre, assumer cette responsabilité de nourrir l'arbre.
Est-ce que vous êtes d'accord, Stéphanie ?
Oui, c'est très beau ce que vous dites. Il faut reconnaître que Noël qui tombe le 25 décembre en Occident, c'est avec c'est mal fichu, quoi. On peut pas sortir, il y a forcément une promiscuité qui s'installe, on repart tous avec une gastro, une grippe et tout. Donc de toute façon, c'est problématique. Néanmoins, c'est vrai que ce qui est dommage si on fait ça, enfin. Voilà, dans certains cas, il peut arriver qu'on en soit réduit à cette extrémité, mais on prive d'abord les enfants de voir leurs cousins. Et aujourd'hui, l'éclatement géographique des familles, on a de moins en moins d'occasions. Par exemple, typiquement, ce rendez-vous familial qui se fait encore traditionnellement une année sur l'autre, ça veut dire qu'ils ne voient plus leurs cousins du tout. Et je trouve ça
vous marquez peut-être un point, Stéphanie. Je n'avais pas pensé à ça, ce détail, mais ce n'est pas un détail.
Et ensuite, je crois, encore une fois, moi, je suis plutôt optimiste, et je crois dans cet apprentissage de la relation où l'enfant devenu adulte s'affirme comme adulte. Et donc on revient à cette histoire de, finalement c'est de l'assertivité, c'est être capable d'affirmer sa position, donc énoncer clairement ses limites, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc si en effet la tablée à 25 c'est pénible pour tout le monde, comment est-ce qu'on fait pour modifier ça, pour inventer autre chose? Mais je crois que vraiment oui, je crois dans cette capacité des adultes d'une part en effet à pas être dans cette vision idéalisée de la famille, parce que toutes les familles ont...
Alors déjà ça on arrête tout de suite,
voilà.
Tips, on arrête
les
ça.
Tensions sont naturelles, a fortiori quand on se retrouve à plusieurs familles fatiguées, avec l'enjeu des cadeaux,
les
qui vont faire pas plaire.
Donc, capricieux.
Voilà, des d'âges différents. Donc par définition, il y a des tensions, mais Dieu merci, on va réussir à les surmonter et à vivre quelque chose de beau ensemble.
Ouais, faites OK quand même avec certaines tensions. Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est quand les par exemple les grands-parents ne se supportent pas. C'est vrai que bon. On peut comprendre, on peut l'entendre, quoi,
oui.
Mais...
Mais moi, j'avais trouvé une astuce avec mes beaux-enfants et mes enfants aussi. Au lieu d'avoir les histoires de cadeaux, tout ça, on avait fait l'option d'échange de compétences. Chacun arrivait avec une compétence, et donc ça change aussi l'ambiance. On n'est plus dans règlement.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Il y en a un qui arrivait à nous... Enfin, mon gendre apprenait à faire des sushis, les enfants apprenaient une compétence qu'ils avaient, on apprenait à faire de la couture, du tricot. Et donc, ça rendait une appartenance vivante.
Moi, je ne sais rien faire de mes dix doigts,
mais
ça change
l'ambiance.
Ce que vous voulez que je fasse.
Ça change l'ambiance. Je vous aurais fait faire l'arbre de Noël.
Ah bah écoutez, je vais me découvrir un talent peut-être. Comment
mais
ça se passe
cette
Sophie André?
Ah oui, allez-y. Pardon, cette et idée de partage, quelque chose de tout simple, et faire une crèche vivante par les enfants, partager un chant, un jeu, des questions ouvertes pour mieux se connaître. Voilà, tout ça c'est à imaginer pour resserrer les liens et c'est vraiment fondamental.
Bon écoutez, avant de vous entendre mesdames au bout du fil là-bas, on va se séparer en compagnie de Chimène Badi, si vous le permettez, d'une fille à sa mère. Point. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RF.
C'est pour toi que je t'ai mes doutes, que je me bats coûte que coûte. C'est pour toi, pour que la lumière s'allume encore sous tes paupières. C'est pour toi que je me relève quand dans ton corps le vent se lève, réveillant le froid de l'hiver. C'est pour toi. D'une fille à sa mère, n'aie pas peur si mes trains déraillent. Je t'emporte où que je m'en aille. N'aie pas peur de tous mes silences lorsque je prends de la distance. N'aie pas peur, mais pas de tristesse. Qu'on se déchire, qu'on se blesse, c'est juste des mots, des broutilles. C'est juste d'une mère à sa fille. C'est pour toi que j'atteins ces notes, pour qu'elles te rendent plus fort. C'est pour toi, pour tes vagues à l'âme, venues s'emparer de ta flamme. C'est pour toi, pour que tu te serres contre moi, viens, je te laisse faire. Tu peux la crier, ta colère, c'est pour toi. D'une fille à sa mère, n'aie pas peur, prends de l'insouciance. Il suffit de se faire confiance, n'aie pas peur de les faire sauter. Ces liens qui t'empêchent d'avancer, mais surtout garde la tête haute. Tout le monde en a fait des fautes, quand pour moi ton amour vacille. C'est juste d'une mère à sa fille. Que je ne veux plus fuir devant ce qui me fait grandir. C'est pour toi, pour que mes rivières emportent nos chagrins d'hier. C'est pour toi, pour qu'on ait pareil le même soleil et le même ciel. À jamais reçoit le cet air. C'est pour toi. D'une fille à sa mère, n'aie pas peur, prends ton second souffle. Dans le dos c'est le vent qui souffle. Il te faut regarder devant. L'avenir est encore si grand. Donne-moi ton plus beau sourire, le même que dans mes souvenirs. En moi c'est comme ça que tu brilles. Allez, maman pour ta fille. Maman pour ta fille.
Chimène Badi, d'une fille à sa mère sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment faire de sa belle-mère une alliée, vu mieux vaut écouter les conseils de nos quatre invités dans cette émission En quête de sens, avant d'attaquer, si je puis dire, les invitations, les fêtes de Noël. Stéphanie Combe est avec nous, elle qui a écrit il y a quelques temps « Belle-mère, belle-fille » de A à Z chez Cazard, elle qui est journaliste, qui est maman de trois enfants, qui est journaliste à la vie. Sophie Adriansen qui est en ligne avec nous et qui a publié beaucoup d'ouvrages et le petit dernier figurant du journal d'une belle-mère qui ne voulait pas d'un second rôle chez Robert Laffont. Aliette de Panafieux qui est avec nous, formatrice psychothérapeute, maman et grand-mère, et qui a monté une association L'Affaire d'une Vie, elle qui anime pas mal de conférences et qui connaît bien, qui maîtrise bien ce sujet, qui le vit aussi personnellement. C'est toujours sympa d'avoir aussi vos témoignages, mesdames. Et Sarah, enfin, Sarah Chauperlet, éducatrice spécialisée, qui a publié « Moi, belle-mère ordinaire » aux éditions du Cerf. Et c'est vrai qu'on en parlait à l'instant, l'instant, enfin tout à l'heure on en parlait avec vous Stéphanie Combe, le rôle des... peut-être y a-t-il un rôle à jouer pour les hommes là-dedans?
Bah exactement, où sont les hommes?
Où sont les hommes
dans cette relation particulière?
Comment se positionner quoi? C'est un peu ça, voilà. Peut-être pour apaiser certaines tensions.
Exactement.
Remettre les choses à l'endroit.
Tout à fait. Et Aldo Nauri s'inquiétait de cet effacement de l'homme d'une société très maternante, notamment l'essor des mamans solo et donc l'effacement des pères. Par conséquent, la disparition de leur propre mère, donc la fameuse belle-mère. Et je le cite, « Pour que l'enfant parvienne à se détacher, il faut que la mère soit elle-même liée par un lien puissant à celui qui s'interpose. » C'est donc le rôle du père de jouer ce tiers séparateur. Et quelqu'un va venir vérifier si le père a joué son rôle à la génération suivante en la personne de la belle-fille. Donc c'est elle qui va venir titiller, rappeler ce lien et l'importance que la mère ne soit pas toute puissante, notamment dans la relation mère-fils.
Voilà qui est dit. Bon, Aliette n'a rien à dire. Mesdames en face, Sophie Adriansen, au-delà de tas de théories effectivement qui ont été écrites et autour de ces questions de la triade, de la famille, le rôle de la mère, du père, etc., etc., etc. N'empêche que là, à l'heure où il y a énormément effectivement la question des familles recomposées, divorcées, etc., avec des liens compliqués, et on peut le comprendre et on l'entend évidemment avec du coup, avec les grands-parents, là, c'est difficile, du coup, d'évoquer une pacification, des fêtes apaisées. Déjà, quand géographiquement, c'est déjà compliqué, mais alors, quand humainement, les liens sont cassés. Pour ces enfants, c'est vrai que tout ça est bien, bien complexifié, quoi. On peut dire ça. Alors, il y a peut-être des... Qu'est-ce que vous conseillez, les l'une et l'autre, Sophie Adriansen? Vous avez peut-être un conseil à donner, justement.
En vous entendant, ouais. Je me disais qu'il y avait des espèces de stratégies de diversion peut-être à mettre en place. Ouais. Si on est réunis et qu'on sait que ça va être compliqué, moi j'ai une belle-mère, puisque je fais Noël avec mes enfants, mes beaux-enfants et aussi ma belle-mère. J'ai une belle-mère qui est alsacienne. Et ben, les ateliers Brédélé, donc pour les non-alsaciens, ces petits gâteaux, formes et saveurs diverses, oui. Et ben, les ateliers Brédélé qu'on peut faire en petits groupes, certains dans la salle à manger, d'autres dans la cuisine, etc. Ouais. Ça réunit tout le monde au moment de la dégustation. Ça permet aussi de faire descendre la pression. Donc, trouver des occupations,
D'accord.
Pour lesquelles chacun va pouvoir trouver sa place.
Ouais. Très, très bonne idée, il me semble. Aliette fait oui.
Oui, oui.
Ça me rassure. Oui. Bref, est-ce que Sarah a des conseils à donner également de ce côté-là, Sarah Schauperlé? C'est le thème de votre livre en plus.
Oui, moi je rejoins aussi effectivement arriver à trouver des activités, arriver un peu à révéler les talents, ça je rejoins aussi. Moi j'aime beaucoup par exemple pour apaiser, c'est que les enfants ils peuvent aussi faire des choses, comme ça a été dit tout à l'heure. Hein. Moi les miens ils font souvent de la musique, donc on peut faire aussi un petit spectacle et ça réunit tout le monde parce que les beaux-parents quelque part ils sont aussi fiers de leurs petits-enfants, donc ça permet non seulement de les valoriser et de se retrouver tous ensemble.
Ouais, et on prend sur soi pour les tensions. Qu'est-ce qu'on fait alors, soi-même, quand c'est compliqué?
Moi, je pense qu'il faut effectivement arriver, ouais. Comme ça a été dit, donc à marquer son territoire, ça c'est vrai, arriver à prendre la distance psychologique aussi, et arriver à faire en sorte que ça se passe bien, puisque pour moi, le plus important, c'est que, après tout, c'est que les enfants ils aient un lien avec leurs grands-parents.
Ouais.
Voilà, parce que moi, j'ai grandi avec des grands-parents qui étaient totalement absents, parce qu'il y a eu des soucis justement entre ma mère et mes grands-parents.
Ouais.
Et je trouve ça c'est le plus triste, c'est quand les enfants en fait sont pris à partie et qui n'ont pas de relation,
ouais, ça,
avec les grands-parents.
Ah, Aliette, c'est un phénomène.
C'est notre responsabilité à nous de créer du lien pour que les enfants, en tout cas, ils aient leur lien, puisque les grands-parents, ils ont des choses à apporter aux enfants.
C'est un phénomène d'actualité, ça, Aliette.
Je pensais à deux choses. D'une part, aussi le précieux de la curiosité pour la tradition que je n'ai pas, que ce soit Alsace ou autre chose. Mais là, je revenais aussi un peu à quand même à mon regard de praticienne et de psychothérapeute, que dans les familles, c'est d'abord une histoire de séparation. Élever ses enfants, c'est leur permettre de séparer. Et j'avais le flash là que cette histoire de greffe, c'est déjà ce que j'ai vécu avec une adoption, enfin des adoptions d'enfants, mais c'est la même chose. C'est pour moi ce que nous voyons dans cette diversification, dans ce bazar apporté dans une unité, un clan, etc. C'est aussi une histoire de greffe. Est-ce que je permets à mes beaux-enfants d'opérer une greffe satisfaisante? Est-ce que j'ai permis aussi, est-ce que je me suis mis de me greffer sur la famille de mon mari d'une façon saine, qui dise ni fusion, ni quelque chose d'une exclusion? Je trouve que c'est ça que nous avons à négocier. Et ça, avec du respect, avec de la délicatesse, dont vous parliez tout à l'heure aussi, Stéphanie. Mais pour moi, c'est faire fi de cette espèce de rêve de fusion où tout le monde s'aime, où tout le monde est d'accord, où on ferait l'économie des conflits. Les conflits, c'est ça aussi. Les conflits, ça dit cette aptitude à être dans la vraie vie, de ne pas être d'accord, de se le dire en se respectant, de se le dire en se regardant dans les yeux, et de rester dans cette priorité de la relation, ouais, quels que soient les bazars et les difficultés, effectivement, à s'accorder sur des choses de la vie au quotidien.
Donc, cessons de rêver le téléfilm du vendredi soir, oui, Découlinant de Rose Bonbon et de Père Noël. Téléfilm auquel on pense, n'est-ce pas, Stéphanie Combe, on accompagne le réel, quoi. C'est comme
oui,
ça.
C'est ça. Et je crois que le secret, c'est d'anticiper, parce que beaucoup de tensions surgissent quand on est devant le fait accompli. Donc, quand on anticipe, quand on expose les problèmes, quand on expose nos besoins, non maman, on va pas un dortoir à 15, ça va pas être possible, qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre solution? Je crois que plus on a anticipé les besoins des uns et des autres, plus on a pu s'exprimer et plus on va réussir ensemble à créer quelque chose.
Et décoder sa belle-mère, quoi.
Oui, c'est ça, et puis lui dire tout simplement que mon frère qui arrive avec un nourrisson alors que moi j'ai des ados, enfin forcément il y a les âges sont pas les mêmes, les besoins, les rythmes sont différents, les besoins sont pas les mêmes, donc voilà, c'est réussir à mettre tout ça
repas,
dans le
tout ça, c'est tellement compliqué, c'est ça les sujets de la vie, hein.
Ouais, exactement, c'est,
les détails, hein.
C'est très concret, mais si
ça,
chacun y met du sien et de la bonne volonté, l'esprit de Noël sera là.
J'espère. Non mais c'est vrai, Aliette, c'est compliqué.
Oui, hein.
C'est les détails qui sont compliqués, c'est pas tellement les généralités, quoi.
Oui, c'est vrai.
C'est des histoires d'horaires de repas, c'est des histoires de façon de se tenir à table aussi. Oui. Mais c'est vrai que c'est fort. Elle a eu raison, Sophie Adriansen, tout à l'heure, d'évoquer le fait que tous vos livres se concentrent. C'est vrai que même, on parle des mauvais rapports belle-mère. On parle jamais de rapports belle-mère-gendre. Il n'y a rien là-dessus. Il y a des livres là-dessus, mais je ne crois pas. Hein. Sophie, c'est vrai que vous avez raison.
Oui.
Ce n'est pas par hasard,
pas
quand même. Hein.
Non,
c'est
non,
étonnant. Hein. C'est vraiment... même les contes de fées, quoi.
Ça fait juste penser à quelque chose. Que quand mon mari est arrivé dans ma famille, il a appelé mon père Jacques, il l'a tutoyé. Il a appelé ma mère mère et il l'a vouvoyé.
Wow.
J'ai réalisé ça un instant. Comme une sorte, qu'il y avait une sorte de familiarité plus grande entre hommes, avec leurs sujets communs et tout ça. Alors qu'avec ma mère, il était dans cette bonne distance. Il appelait mère.
Et vous, faites pareil avec votre belle-fille. Vous tenez à cette distance comme votre mère. C'est marrant.
Oui.
Ouais, bon, je ne suis pas votre psy non plus.
mais je la
c'est étonnant, en fait.
Oui.
D'accord. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas que vous, quoi. Certainement quelque chose qui est établi, quoi. C'est assez étonnant. Sarah, vous êtes d'accord ou pas? Parce que vous n'étiez pas là quand on a évoqué cette question d'une espèce de mimétisme, en tout cas de complexité des rapports belle-mère-belle-fille, beaucoup plus qu'avec les gendres.
Ouais, je suis assez d'accord, mais je pense qu'en fait, les hommes s'impliquent peut-être un peu différemment, je ne sais pas.
Est-ce qu'on
est beaucoup plus relationnel qu'eux? On prend peut-être beaucoup plus les choses aussi à cœur, peut-être qu'eux, ils le prennent vraiment différemment. Finalement, si eux ne sont pas d'accord, c'est pas grave pour eux. Ils ne sont pas d'accord, ils le disent et ils passent à autre chose. Et
est-ce que nous, ça fait marrer Aliette. Alors là,
Non, je ne sais pas.
Non, mais c'est amusant ce que dit Stéphanie. Vous êtes d'accord?
Oui, je crois qu'il y a aussi la dimension qu'on occulte un peu de la mère nourricière. Parce que quand on se retrouve, c'est souvent autour d'un repas et il y a énormément d'enjeux autour du repas. En France. Et deux personnes dans la même cuisine, souvent ça fait des étincelles. Et on en revient à cette histoire de territoire.
On a tous ça en tête, hein, des histoires
exactement.
De la cuisine. Belle-mère, belle-fille, c'est bon, j'ai dans le dossier.
Et c'est une dimension qui a son importance, je pense.
Oui, c'est vrai, Aliette.
Oui, c'est vrai.
Dans la cuisine.
La cuisine.
C'est encore pire que tout. Il y a une raison, c'est le côté aussi nourricière, c'est ça encore? Vous allez nous sortir
Non, c'est vrai.
Dans
vrai,
la cuisine, quoi.
C'est une
tension.
La cuisine comme une propriété interdite, un territoire sacré. Avec un geste, évidemment. Et là aussi, c'est à négocier. Bien sûr que c'est à négocier, soit on y va à deux en dansant, mais si on ne danse pas en même temps dans la cuisine, on a intérêt à alterner ou à trouver d'autres aménagements.
En fait, il faut quand même bien connaître, hein, faut apprendre à connaître qu'est sa belle-mère, ou si les belles-mères écoutent cette émission, à essayer de décoder leur belle-fille, et puis après, c'est un cercle vertueux, j'imagine, hein, c'est
mais,
ça.
Mais à sentir aussi, avoir cette capacité à sentir ce qui est juste, ce qu'elle peut supporter ou pas, ce qui est essentiel pour elle, à le repérer et à le respecter.
Et on n'est pas obligé de voir sa belle-mère non plus tous
comme
les quatre matins.
Hein.
Ouais. Ouais. Et il faut se parler ou pas?
Non.
C'est incroyable, ça rejoint ce que dit Stéphanie dans ton livre, là, muette, aveugle, sourde.
Mais on fait des choses ensemble. On fait des choses, ou même on écrit quelque chose, on regarde les photos.
On ne se confie pas,
mais
c'est
non.
Ça
et puis on n'ouvre pas de débat, ni sur l'éducation, ni quoi que ce soit. Non, mais vous savez bien,
ce que
j'ai déjà dit ici, c'est que là, pour moi, je sais que je ne fais pas que des...
On n'est pas que des amis.
C'est que, non, là, pour moi, la santé d'un couple passe par la capacité de chacun à être capable de rester sans parler. Sans ouvrir de débat. Ça, c'est vraiment la chose à laquelle je crois. Et de communiquer autrement. Avec ma belle-mère, j'aurais souhaité communiquer autrement. Et qu'en parlant. Et avec mes beaux-enfants aussi. C'est avec ma belle-fille aussi. Comment est-ce que je vais arriver à créer cette chose de qualité, comme diraient mes enfants, à la vie, à la mort, sans parler. Mais sans parler.
Ouais.
Sans, voilà.
Ok, bon, alors Sophie et Sarah, est-ce qu'il faut parler? Oui, vous êtes d'accord avec ça? C'est intéressant quand même, le fait de se parler. Est-ce qu'il faut se parler vrai? Est-ce qu'il faut se parler tout court?
Mais ça, ça va dépendre évidemment.
Sophie?
Effectivement, ce que j'ai exploré, c'est plutôt la belle-mère avec sa belle-fille jeune.
Ouais.
Et effectivement, je pense que c'est plutôt avec le conjoint qu'il faut parler des difficultés que la beau-parentalité engendre et de ce déséquilibre qu'il y a forcément pour les deux adultes.
Ouais. Bon conseil. Sarah, Choperlé?
Je ne sais pas. Moi, je serais un peu moins catégorique. Je pense que ça dépend peut-être des situations aussi et de la belle-mère en question. Moi, effectivement, je suis d'accord qu'avec ma belle-fille, je parle beaucoup avec mon conjoint, mais j'en parle aussi avec elle, parce que sinon, ça peut parfois exploser et c'est encore pire. Les dégâts peuvent être irréversibles.
Ouais, quand les visions sont antinomiques, c'est très compliqué.
Je pense qu'il faut, ça dépend des relations. Maintenant, moi, j'ai toujours réussi à, malgré tout, à parler.
Ouais.
Voilà, ça fait ma position, mais après, je pense. Mais j'ai pas une belle-mère toxique non plus. Donc, je pense que ça change selon la relation qu'on a et selon la belle-mère qu'on a.
Bon, elles ne sont pas toutes toxiques, hein, pardon d'avoir dit ça, mais bon, il y en a certaines qui le sont, donc je ne pouvais pas ne pas le dire.
Voilà, ça dépend.
Ouais, Stéphanie.
Mais parce que moi, à contrario, dans la cuisine, je pense qu'il peut se passer aussi des très très belles choses.
Ouais.
Et dans certaines cultures, il se passe énormément de choses et toutes les femmes sont dans la cuisine. Et c'est là, c'est un moment de convivial et on discute et on échange. Et je pense que ça peut être quelque chose de très positif aussi.
Ouais, à remettre au goût du jour chez nous. Oui, hein, Stéphanie, pour terminer.
Oui, cette question du positionnement du mari, du jeune marié, finalement, je crois qu'il y a un devoir qui n'est pas évident de son côté, mais en cas de mère toxique, il a un devoir de protéger son couple, sa famille. Et donc à s'affirmer, alors que je le rappelle, il est dans un conflit de loyauté, hein, qui est légitime.
Il faut quand même toujours défendre son couple.
Voilà, c'est à lui de s'imposer et de ne pas laisser sa femme exposée, si c'est le cas.
Eh bien, merci de l'avoir dit quand même.
Juste l'inverse.
C'est
à moi de me protéger et laisser mon mari tranquille.
Ah oui, mais finalement, oui. Mais... Bah, ça dépend des cas, peut-être. Enfin, en tout cas, au moins, il y a deux points de vue différents. Merci, mesdames. Stéphanie Combe et votre livre, bien sûr, toujours à découvrir, Belle-mère à belle-fille de A à Z chez Casa. Sophia Adriansen, figurante journal d'une belle-mère qui ne voulait pas d'un second rôle chez Robert Laffont. Aliette de Pagnafieux, merci également d'être revenue. Vous qui êtes toujours formatrice psychothérapeute pour les couples, pour les familles, pour les constellations, pour les arbres de famille. Sarah Choperlé, merci également. Vous voyez votre livre Mariée, Moi, belle-mère ordinaire aux éditions du CERF. Merci infiniment, mesdames, et bonne soirée à tous, et bonne préparation des fêtes de Noël.